et je le verrai face à face, celui qui m'a sauvé par grâce. On ne se rend même pas compte ce que ça représente. Et encore, on ne se rend pas compte combien ça lui a coûté. Et si on obtenait seulement ce que nous est dû, eh bien on n'aurait pas grand-chose. La dette est grande. Mais un jour, j'ai l'impression que quand on verra Jésus, la première chose c'est de rien dire. Vous savez comment c'est quand on est là tout d'un coup. Je le vois. Et puis après ça explose. Et puis on sera là tous en même temps. Ah, ça sera une explosion de joie comme on n'a jamais vu. C'est pas comme quand il y a un but qui est marqué. On entend « Wow !» On habitait à 500 mètres du Stade de France et de la maison, on pouvait savoir quand ils avaient marqué. Ils disent du Stade de France qu'une clameur s'était levée. Ah oui, mais quand nous verrons Jésus face à face, ce sera plus qu'une clameur. Et puis après, les anges qui sont là, ils se disent, qui aurait cru que ces gens-là, ils arriveraient au ciel? On les connaît, on a eu affaire à eux. Ça alors, et puis après, eux qui se mettent à se réjouir. Ah, ça sera beau. Mais pour l'instant, nous devons faire face à une crise, n'est-ce pas? Eh bien, faisons face comme des gens qui savent qu'un jour, ils verront Jésus face à face. Ça change la crise, n'est-ce pas? Jésus a pu voir subir la croix, supporter la croix. Pourquoi? À cause de la joie qui était réservée. Prions. Père céleste, merci de ce que tu nous as parlé. Et en nous parlant, tu nous as rassurés. Lorsque nous regardons autour de nous, nous faisons ce qu'a fait Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau. On coule. Mais ce soir, nous voulons élever la voix et dire « Seigneur, sauve !» Et nous pourrons marcher avec toi sur les flots, en attendant que la tempête soit calmée par toi. Père céleste, merci de ce qu'il nous soit possible d'entretenir de telles pensées et de nous consoler mutuellement. Ce soir, Seigneur, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit ta parole, que ce soit par ton esprit. Seigneur, parce que nous en avons besoin. Et tu sais combien sont ceux qui portent des fardeaux, qui subissent la crise, qui font face à une crise dans leur vie. Et si elles n'en ont pas une maintenant, ils viennent d'en sortir, ou bien il y en a une qui leur attend. Et Seigneur, nous avons besoin de savoir comment affronter ces périodes difficiles. Veuille nous parler, veuille nous conduire, et Seigneur, que chacun qui est là reçoive quelque chose ce soir. Et que tout cela soit à la gloire de ton Fils Jésus-Christ, lui seul est digne. Père, merci. Amen. Le premier soir, nos pensées ont été entretenues sur le thème de l'Église face à la crise. Et c'était la volonté du Seigneur qu'il nous soit rappelé que lorsque, en tant qu'Église, nous sommes là face à la crise, la meilleure manière de réagir, c'est d'aimer encore plus. Et d'aimer tel que nous avons été aimés. Et d'aimer de l'amour que Christ nous a fait connaître. L'amour qui est le produit de l'œuvre de l'Esprit. Aimer. Hier soir, c'était la famille face à la crise. La famille face à la crise. Mais c'est pas le désespoir. Nous avons eu un message d'espoir. La famille n'est pas démunie devant la crise. Et quelle qu'elle soit, et quelle que soit sa forme, eh bien, nous pouvons faire face. Ce soir, eh bien, c'est chacun tout seul, face à la crise, face à sa crise, face aux crises qui l'entourent. Le courrier international, dans un numéro hors série du mois d'octobre à décembre de cette année, eh bien, a pour thème « Changer de modèle face à la crise ». Voilà la réponse. Vous achetez ça demain, vous aurez les réponses. La vie meilleure, mode d'emploi, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et sur quatre axes, slow life, écologie, décroissance, nouvelles valeurs. Ah, ça vous inspire, n'est-ce pas? Il nous dit que dans cet ouvrage, dans ces textes, il nous dit que la démarche proposée, eh bien, sinon, il y a certaines choses que nous devons proscrire si nous voulons régler cette crise. Il nous dit qu'il faut proscrire la pollution, l'urbanisation, la déforestation et la consommation. Il nous dit tout ça, c'est beau. Mais pour moi, dans ma situation ce soir, eh bien, ça ne m'apporte rien du tout. La démarche qu'il nous propose s'énonce selon quatre verbes. Arrêter, réfléchir, bouger et inventer. Alors, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a des articles, et tout ça, quand on va bien, et quand on n'a pas de problème... C'est très intéressant à lire. Mais lorsque vous êtes face à une crise, eh bien tout ça, ça ne console pas. Certainement, il nous encourage vers une réflexion responsable en vue des générations à venir. Mais pour ma génération, pour ma situation, dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, quand tout va bien, quand c'est la fête, il y a du monde. Mais quand vous êtes face à la crise, vous vous retrouvez tout seul. Hein, vous l'avez certainement vécu. Nous avons certainement le sentiment que cette crise dont on nous parle tout le temps est composée de plusieurs crises, les unes plus grosses que les autres. Et chacun propose sa solution, chacun... Et au bout d'une année, on commence à avoir assez. Parce que ça va pas mieux. Dès qu'une chose se règle, il y a les deux autres qui apparaissent. Et vous savez, si vous voulez vous décourager, ben, il faut écouter les informations, lire le journal, et puis voilà. Mais nous, ce soir, notre thème, c'est l'individu face à la crise... Et puis le thème, finalement, il ne nous dit pas quelle crise il s'agit face à la crise. Donc, mes prédécesseurs de mercredi soir et de jeudi soir, eh bien, aussi ont posé la même question. Ils ont dit, mais je ne sais pas exactement de quelle crise il s'agit. Et peut-être, ils se disaient, mais peut-être c'est Steve, vendredi soir, il répondra à la question. Écoutez, moi, je vais vous dire la même chose que eux. Je ne sais pas de quelle crise il s'agit. Mais je sais que celle qui vous préoccupe le plus, c'est celle qui est dans votre vie. Et c'est pas celle qui est là-bas, mais c'est celle qui est là devant moi et que je subis. La crise de l'un n'est pas nécessairement la crise de l'autre. Pour les uns, la situation mondiale, tant économique qu'écologique, est une crise, mais pour d'autres, c'est une aubaine. Il y a certains pays qui souffrent de cette crise. Ils font tout, ils impriment de l'argent, des billets en tous les cas, pour essayer de se maintenir, alors que de l'autre côté du monde, eh ben c'est l'occasion. Vous savez que toutes les grandes guerres, il y en a qui perdent tout et il y en a qui s'enrichissent. Donc une crise, il n'y a pas une crise pour tout le monde en même temps. Pour les uns, c'est une crise, pour les autres, ce n'est pas une crise. Et donc, nous ne pouvons pas penser à une seule crise ce soir. Mais ensemble, pensons chacun à sa crise, ses crises, les crises que nous venons de traverser plus ou moins bien, et de nous préparer pour celle qui nous attend, à moins que le Seigneur revienne. Ah, si lui vient, alors ça y est, c'est bon. Hein. Moi, je laisse les crises. Hein. Et puis, on sera avec lui. Hein, comme dit l'apôtre Paul, on aura vite oublié nos soucis de la terre, une fois qu'on le verra. Notre objectif devant la crise sera de voir comment éviter ces dangers et ensuite de tirer profit des opportunités qu'elle crée. Dans chaque crise, il y a des dangers, mais il y a aussi des opportunités. Mon problème n'est pas le fait qu'il y ait une crise. Ma préoccupation, c'est comment est-ce que je vais me comporter dans cette crise et qu'est-ce que je vais en tirer à la gloire de Dieu. Et ce soir, nous voulons sortir de là avec des paroles d'espérance. Vous savez, le grand risque d'une crise est de permettre que toute notre attention soit accaparée par la crise. Et je ne vois que la crise. Et je ne vois plus le Seigneur. Il suffit d'un petit nuage pour nous empêcher de voir le soleil, n'est-ce pas? Et la question pour nous ce soir, c'est comment éviter que mon attention soit détournée de Christ et puis de devenir la victime de la crise, ou bien de regarder à Christ et d'en faire un tremplin. Une première question que nous voulons nous poser, c'est d'abord ce qui constitue une crise. Comment est-ce que ça arrive? D'où vient une crise? Qu'est-ce qui en fait une crise? Pourquoi est-ce qu'une crise est une crise? C'est une crise, ça dépend comment on la vit, hein, si c'est une crise ou pas. La même chose pour l'un n'est pas une crise. Donc, finalement, il n'y a pas une définition. Ça dépend comment je la vis, comment ce qu'elle représente pour moi. Qu'est-ce qui fait d'une situation une crise? Comment faire une juste appréciation de son impact sur ma vie? Première chose, l'individu doit faire une juste appréciation de l'ampleur de la crise. Est-il sûr que crise il y a? Vous savez, l'imagination dont nous sommes dotés et qui est merveilleuse, hein, c'est grâce à l'imagination qu'on a pu inventer beaucoup de choses. Et finalement, on l'a vu d'abord dans notre imagination, puis ensuite on l'a réalisé. Je me souviens mon père qui disait, il a pris le chevaux et leur calèche, et puis ils avaient fait des kilomètres pour aller voir le premier avion qui allait passer. Ah, oh, ça, c'était quelque chose. Mais quelqu'un l'a imaginé, puis ensuite on l'a réalisé. Et il n'y a pas... Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé avoir un A380 dans l'air. L'imagination peut provoquer un emballement des pensées et créer l'inquiétude et l'anxiété. Et ça se passe dans mon imagination. Il n'y a pas forcément problème. Mais à partir du moment que je vois la chose, et puis tout d'un coup mes pensées s'emballent, tout d'un coup j'ai un gros problème. Et c'est la panique. Et c'est l'adrénaline qui se met en marche. Et puis en avant. Et on ne sait plus l'arrêter. Vous savez, j'en ai parlé dimanche dernier en église, mais je rappelle. Vous savez, quand nous voulons penser à quelque chose, et puis, mais que nous avons très peu d'informations sur cette chose, alors nous prenons le peu qu'on a, et on se met à réfléchir, on essaie de tirer le maximum de ce qu'on sait, et on se fait tout un tableau. Je disais dimanche, vous savez, le jeune homme qui voit une jeune fille pour la première fois, il n'a même pas dit bonjour, il n'a même pas entendu la voix, mais il... Oh. Et puis il part, il est avec ça. Et puis il commence à imaginer des tas de choses sur elle. Il se fait toute une biographie sur la fille. Et c'est absolument rien. Mais dans notre cas, on voit quelqu'un qui ne nous plaît pas. Et notre imagination nous rend service aussi. Elle nous permet de déduire des tas de mauvaises choses sur la personne. Et tout d'un coup, ce qui aurait pu être chez un mignon, chez un autre, mais qu'est-ce que c'est laid. Mais tout ça se passe dans notre imagination. Vous savez, ceux qui s'appuient sur leur réflexion et sur leur pensée, eh bien, ils s'appuient sur quelque chose de très instable, très, c'est pas sûr du tout. Et avec très peu d'informations, tout d'un coup, je vois la catastrophe. Quelqu'un éternue, tout d'un coup, on a une épidémie. Vous savez, nous suppléons notre manque d'informations en formulant dans nos pensées tout ce que l'on peut déduire des données que nous possédons. Si le sujet nous plaît, nous déduisons dans le sens positif, et si le sujet nous déplaît, eh bien, le complément d'information prend une autre orientation très négative. Et ça arrive, ça nous arrive tout le temps. Et ainsi, nous pouvons voir arriver, à partir d'un simple événement, tout d'un coup, on voit une crise, une panique. La crise aussi peut provenir de la perception mentale que l'on fait d'un ensemble de données. Tout d'un coup, on panique avant d'avoir toutes les informations. On n'a pas encore vérifié l'information qu'on a. Et déjà, boum, 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 et on se demande ce qui se passe. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Et tout d'un coup, eh bien, même si l'information est incomplète, eh bien, ce qu'on a, on peut l'interpréter mal, et on se retrouve avec une crise qui provient de l'imagination, mais tout d'un coup, la crise est réelle. Et la réaction et le sentiment, c'est exactement la même chose que si la crise était vraie. Et celle qui est issue de nulle part, tout d'un coup, eh bien, on a une vraie crise qu'on s'est créée. Je vous pose une question. Le Seigneur est avec nous tout le temps, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est avec nous dans les crises que nous avons inventées? Je ne vais pas répondre. Je vous laisse réfléchir. Il est avec nous pour du vrai. Mais si c'est nous qui l'avons inventé de nulle part, parce qu'on s'est laissé emporter, il dit, mais moi, j'ai jamais prévu ça pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, Seigneur, tu vois. Puis dans la prière, on dit, Seigneur, tu vois, et puis tu as vu celui-là, il me veut du mal et tout ça. Il dit, mais moi, j'ai rien vu. Tu as vu comment il a dit ce qu'il a dit? Tu as vu, il est parti sans me saluer. Il dit, mais toi, c'est ton imagination, il n'y a rien là. Qu'est-ce que tu en fais? Et tout d'un coup, on provoque la catastrophe dans l'église, et il y en a un qui a imaginé quelque chose. Et puis il parle à quelqu'un, puis l'autre personne dit, ah oui, c'est vrai, ah bon, tu es sûr, ah alors. Et puis tout d'un coup, ça part et c'est parti. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Comment il fait? Vous savez, la crise devient réelle. Elle est partie à partir de rien du tout. L'individu face à la crise, mais l'individu, il a inventé la crise. Il l'a créée. Il s'en est créé une et après il veut qu'on sorte de là. Le Seigneur est patient, n'est-ce pas? Vous savez, parfois on se trouve devant des crises, on est en plein dedans, et puis qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se poser des questions, d'où ça vient, pourquoi c'est venu, et des tas de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation où vous avez, par accident, vous avez heurté un nid de frelons, et tout d'un coup, vous voyez ces petites bêtes qui vous foncent dessus. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, mais j'ai pas fait exprès. Ils se rendent pas compte, j'ai pas fait exprès. Vous êtes en train de philosopher, là, vous dire, mais qui est-ce qui les a créés de cette manière-là? Ah, ils réagissent au quart de tour. Non, c'est pas le moment. Il y a deux options. Ou on prend les jambes à son cou et puis on y va, ou bien on se met à plat ventre et on fait le mort. Mais il faut décider très vite. Et vous savez, on est là, face à la crise. Eh bien, la crise est là, qu'est-ce que je fais? Vous savez, Joseph s'est trouvé tout d'un coup dans une situation de crise. Son maître Potiphar avait une pleine confiance en lui. Et puis tout d'un coup, Madame a raconté une histoire. Et lui, il est fou furieux. Et Joseph est là. Qu'est-ce que je fais? Il dit, mais c'est pas ma faute. J'ai rien fait. Oui, mais la crise, elle est là. Et il se trouve avec une situation. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, finalement, il n'a pas le temps de décider trop parce que déjà, il se retrouve en prison. Et là, il dit, mais c'est quand même pas ma faute, c'est pas juste. Je me fâche. Si c'est ça le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon père, si c'est comme ça, ben, c'est pas la peine. Mais j'ai rien fait, c'est pas ma faute. J'ai tout bien fait. C'est pas juste. Eh bien, vous croyez que l'histoire aurait terminé comme elle est terminée, s'il avait eu de telles pensées? Non, il s'est trouvé face à une crise. Et finalement, c'est pas ce qu'il a fait, c'est vers qui il s'est tourné qui a fait la différence pour le reste de sa vie. Les trois jeunes Hébreux qui se trouvent tout d'un coup devant le roi parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant son idole, se trouvent face à une crise. Ils entendent le crépitement du feu derrière eux. Alors, vous allez vous prosterner? Mais on n'a rien fait, nous. C'est pas question. Et vous savez, c'est extraordinaire. Ils ont dit au roi, tu fais ce que tu veux faire. La crise, ben, peu importe, moi, nous, on n'est pas préoccupés par la crise. Tout ce qu'on sait, nous, on sait à qui on appartient et on fait ce qu'on a à faire. Nous, on reste fidèles. Maintenant, tu veux inventer une crise, tu fais une crise, tu nous mets là. Et puis, vous savez ce qui est extraordinaire? Ils ont été jetés dans la fournaise. Et puis, après un certain moment, le roi, il regarde, il en voit combien? Tellement, il doute de lui, hein. C'est la première fois qu'il n'est pas sûr de lui. Il dit, mais on en a jeté combien? Il dit, mais trois, roi. Il dit, mais moi, j'en vois quatre. Vous savez, la question que je me pose, c'est est-ce que les trois, est-ce qu'ils savaient que le quatrième était là? Mais le roi a vu que le quatrième était là. Vous savez combien d'épreuves vous êtes dans l'épreuve, et vous vous sentez seul dans l'épreuve, mais les autres qui vous regardent, ils voient qu'il y a quelqu'un avec vous. Je ne suis pas sûr que les trois ont vu qu'il y avait un quatrième. Ils en ont entendu parler après. Le roi dit, mais et où est passé l'autre qui était avec vous? Il dit, lequel? Ben, il n'y avait que nous trois. Non, j'en ai vu un. Il ressemblait au Fils des dieux.
Ah bon? Ah ben, c'est merveilleux. Mais pourquoi ils se trouvaient dans une situation face à la crise et comment est-ce qu'ils ont réagi? Eh bien, pour nous, c'est pas la crise qui nous préoccupe, c'est Dieu. Nous, on va faire ce que Dieu a pour nous. David se trouve dans une crise. Absalom vient pour le détrôner et certainement pour le tuer parce qu'on ne peut pas avoir deux rois. Et David, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, dit, le trône, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, j'ai pas à me battre, c'est lui qui me l'a donné. Donc, s'il veut le reprendre, il le reprend. C'est à lui de le protéger. Donc, je m'en vais. Et tellement il le croyait, que lorsque Shimei lui jetait les pierres, le maudissait, il dit, mais c'est certainement Dieu qui lui dit de le faire. Hein. Pourquoi? Par lui, il avait qu'une seule pensée. C'est Dieu. Dieu me l'a donné. Dieu. Face à la crise, eh bien, il est parti. Et le Seigneur, Dieu, lui a rendu le trône. Il dit, quand c'est moi qui le donne, c'est moi qui le garde. Tu n'as pas à te battre. Pierre et Jean se trouvent tout d'un coup devant le Sanhédrin. Ce Sanhédrin qui venait, il y a peu de temps, avoir condamné Jésus à être crucifié. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, il dit, pas de choix. Nous, on ne connaît que Jésus, hein. On ne connaît personne d'autre. Il n'y a que lui. Vous faites ce que vous voulez, mais nous, c'est Jésus. Vous savez, la crise n'est plus une crise. Qu'on commence à penser de cette manière-là. Ce qui aurait pu être la cause d'une panique, eh bien, finalement, c'était un embarras pour le Sanhédrin. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? C'était un embarras pour le roi de Babylone. Qu'est-ce qu'on fait de des gens pareils? Le point crucial, finalement, face à une crise, ce n'est pas la crise, mais c'est comment je vais réagir à la crise. C'est tout ce qui nous importe. Pas la peine de passer du temps avec la crise et voir ce qu'elle peut faire comme dégâts et ce qu'elle va faire comme dégâts. Si tu y penses, elle en fera. Mais si tu réagis correctement, bien la crise ne sera plus une crise, mais une opportunité. Mais vous savez, et je viens de le dire, en fonction de ma réaction, je peux aggraver la crise ou je peux l'atténuer. Comment est-ce que j'aggrave une crise? Vous savez, le roi David, que vous connaissez bien, ce personnage biblique est confronté à une crise dans laquelle son avenir est remis en jeu. Il a été oint par le prophète de Dieu, Samuel. Pas n'importe quel, il a été oint par un vrai prophète. Et puis, le temps passe. Et c'est pas une semaine, deux semaines. C'est pas une année, deux années. Il a bien entamé les 10 ans. Et plus ça va, moins on dirait qu'il sera roi un jour. Il a affaire avec ce roi Saül, qui n'a qu'une seule pensée, c'est que ce berger de Bethléem soit détruit. Le fait que David pourrait être le roi ne dérangeait nullement le prince héritier. C'est étonnant quand même. Que le père soit tellement préoccupé, le prince héritier, ben lui, il n'est pas tracassé. Lui, il avait la foi. Puis ce que Dieu veut, c'est très bien. Ce qui est un problème pour l'un n'est pas un problème pour l'autre. Et c'est pas les circonstances qui font la différence, c'est ce que je pense et est-ce que je pense comme Dieu pense. Saül voulait à tout prix que David soit mis à mort. et tous les moyens étaient bons. Et David vivait selon un certain principe qu'il ne devait pas mettre la main sur loin de l'Éternel. Finalement, ce principe qu'avait David, il était bon, mais finalement c'était une faiblesse pour lui. Parce que il ne pouvait pas se battre comme Saül pouvait se battre. Saül qui n'avait pas de principe, il pouvait faire ce qu'il voulait. David qui avait des principes, avant lui, il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Vous n'avez pas jamais eu ce sentiment dans le monde? Il dit, si j'étais du monde, je sais ce que je ferais. Il saurait ce que je pense au fond de mon cœur, selon mon ancienne nature. Mais je suis chrétien. Mais lui, il peut dire tout ce qu'il veut, rien ne l'empêche, et moi, je ne peux pas. Et j'ai déjà entendu, il a de la chance que je suis chrétien. David, finalement, son point faible. Et il avait eu deux opportunités de mettre la main, toucher à Saül, et même il y en avait qui l'ont suggéré au cas où il n'aurait pas eu l'idée. Mais plus il respectait son principe, plus le trône s'éloignait de lui. Vous savez, des fois, quand on arrive dans une épreuve, on est encore fort. On a la foi. Je ne sais pas si avoir la pêche est un langage spirituel. Mais on a la foi, on a la confiance. Oui, Seigneur, oui, j'ai confiance en toi. Oui, mais au fur et à mesure que ça dure, on commence à affaiblir, ça use. Notre confiance en Dieu commence à affaiblir. Et si la crise dure trop longtemps, on se dit, mais Seigneur, je ne sais pas si je vais tenir. Et vous savez, David est arrivé dans cette situation aussi. Prenez vos Bibles. Dans 1 Samuel, chapitre 27. Il y a une parole là qui pourrait nous étonner. Et pourtant, elle vient de la bouche de ce David. 1 Samuel, chapitre 27. Et c'est le début du premier verset. Il dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Rendez compte? Celui qui résiste depuis une dizaine d'années, la foi dure, mais la crise aussi. Et puis il arrive un moment, il lui reste plus rien. Toutes ses ressources, toutes ces pensées qu'il a eues sur les pâturages avec son harpe, tout ce qu'il avait appris au travers des expériences avec l'ours, avec le lion, toutes ces choses qu'il avait apprises, eh bien, là, c'est plus suffisant. Il est au bout. Mais Saül, lui, il est toujours bien vivant. Et lui, il se trouve et dit, et il le dit, hein, je périrai un jour par la main de Saül. Tout d'un coup, l'onction de Samuel est plus là devant ses pensées. Toutes les promesses qu'il avait reçues ne sont plus là. Il n'a plus aucun verset auquel il peut s'accrocher. Il n'a plus aucune pensée sur Dieu. Il n'a plus rien. Il se retrouve tout seul avec lui-même, l'individu, face à la crise, démuni. Il n'y a qu'une seule chose qui lui vient à l'esprit, je périrai un jour de la main de Saül. Jusque-là, j'ai fait confiance à Dieu. Jusque-là, j'y croyais, mais maintenant, j'y crois plus. C'est une crise, ça. C'est une crise. Il est rare que lorsque nous nous trouvons dans des situations équivalentes à celles de David, que nous ayons la pensée de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. C'est pas facile de penser à ce verset, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui, Seigneur. Non, ça y est, tout c'est parti. Ça tient plus. Il est tout seul. Tout seul, l'individu. Tout seul face à une situation. on veut le tuer.
Nous savons que, quoi qu'il arrive, l'ascension de David sur le trône d'Israël n'a été jamais remise en question. Ça, c'est Dieu a dit, tu seras le roi. C'est tout. Ça, mais David, lui, devant, avec ce qu'il voit et ce qu'il a subi et tout ça, il se trouve dans une situation, mais je périrai un jour de la main de Saül. Et si nous continuons à lire, verset 2, et David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Et ce que David a pensé de Saül, parce qu'il le connaissait bien, s'est révélé juste. Saül, informé que David était enfui à Gath, cessa de le chercher. Lui, il avait une allergie pour les Philistins. Ah, il dit là-bas, non, je ne vais pas le chercher là-bas. David le savait. C'est ça qu'il dit à la fin du verset 1. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Et ainsi, j'échapperai à ça. Il dit, jusque-là, j'ai fait confiance à Dieu, mais c'est pas possible. Maintenant, il faut que je me débrouille tout seul. Il dit, David, si tu as envie de vivre, débrouille-toi. Écoute, tu es un peu malin, tu es agile, tu as des idées. Écoute, il n'y a que toi. Personne d'autre pourra te sortir là. Vous n'avez jamais pensé ça? Hein, Steve? Écoute, il n'y a personne, tu es tout seul. C'est le pétrin. Si tu vas sortir de là, c'est toi qui vas te sortir de là. C'est pas la peine de prier. Tu l'as essayé, ça donne rien. Alors va voir ce que tu peux faire. L'individu face à la crise. Mais il a oublié que celui qui l'avait protégé jusque-là, c'était bien Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, a même envoyé Jonathan à lui pour lui rappeler, dit, écoute, ne crains point, tu seras roi. N'aie pas peur de mon père. Mais David était au point où il avait même du mal à croire son meilleur ami Jonathan. Il dit, je crois plus personne. On peut arriver jusque-là. Et peut-être vous l'avez vécu. Et c'est possible, et n'importe lequel, si David peut y arriver à ce point-là, n'importe lequel d'entre nous pouvons arriver à ce point-là. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien maintenant, à qui est-ce qu'il fait ses prières? Ce n'est plus à l'Éternel, mais c'est à ce roi qui est à Gath. Et il demande au verset 5 à 7. David dit à Achish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une de tes villes, des villes du pays, un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Achish lui donna Tiklag. C'est pourquoi Tiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Et le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'un an et 4 mois. 1 an et 4 mois coupés de la communion avec Dieu. 1 an et 4 mois où il ne prie plus à Dieu. Mais il ne prie, maintenant les prières ont changé d'orientation, c'est le roi, c'est les Philistins. David! Celui qui a pu dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Eh bien, il a pu arriver à ce point-là. Écoutez, ne nous faisons point d'illusions. Nous pouvons arriver, chacun d'entre nous pouvons arriver à ce point-là. Et c'est pas le moment, quand on voit quelqu'un dans cette situation-là, c'est pas le moment de lui jeter des pierres.
mais fais à ton frère ce que tu voudrais qu'il te fasse, toi. Relève-le. Il n'a plus de foi pour se porter, eh bien, que ta foi le porte. David arrive à une situation, il ne prie plus Dieu, et ça dure depuis 1 an et 4 mois. Il ne prie qu'à un roi philistin ennemi. Si nous lisons les versets 8 à 12, eh bien nous voyons le mode de vie qu'il vivait. Il vit du mensonge. Il va faire une razzia chez les ennemis d'Israël, et puis quand il revient voir le roi, il lui dit « Alors, où est-ce que tu as été ?» Il dit « J'étais à les frontières d'Israël, je fais des massacres là-bas. »« Ah ben c'est bien. » C'est un mensonge. Et pour qu'on ne découvre pas son mensonge, eh bien chaque fois qu'il faisait une razzia, il tuait tout le monde pour qu'il n'y ait pas de témoin. Vous rendez compte? Et de vivre 1 an et 4 mois en train de massacrer les gens, hommes, femmes, enfants, parler d'une subsistance. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu ne peut plus me conserver. Il faut que je me débrouille par mes propres forces. Et vous savez, quand on essaye de vivre avec nos propres forces, on mène une drôle de vie. Peut-être vous l'avez vécu aussi. Oui, je me souviens. C'était pas beau. Et il arrive au point, et on arrive au début du chapitre 29, verset 2. Voilà David et ses 600 hommes qui font partie de l'armée des Philistins pour aller combattre Israël. Maintenant, non seulement est-ce qu'il est loin de Dieu, mais il combat le monde de Dieu, le peuple de Dieu. Pourquoi? Face à la crise, et David a réagi en disant, écoute David, il faut que tu te débrouilles toi-même. Il a fait ce qu'il a pu. Le résultat est que parce qu'il a opté pour ce mode de vie, et Dieu a eu patience avec lui, il a donné le temps de revenir pendant 1 an et 4 mois, il n'est pas revenu. Tout d'un coup, David se trouve devant une nouvelle crise, c'est que la ville de Tiklag a été attaquée, brûlée, et toutes les femmes et les enfants ont été emportés. Ils n'ont plus rien. Lui qui faisait des razzias chez Amalek et qui mentait et disait « Je l'ai fait chez Israël », maintenant c'est les Amalécites qui sont venus et qui ont pris tout ce qui était à lui. Et David se trouve dans une situation telle, il nous dit au chapitre 30, verset 6, « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Voilà où ça a mené. Il y a eu une crise, mais parce qu'il n'a pas réagi correctement à cette crise, il l'a aggravée, et maintenant il se trouve dans une situation encore pire. Et ça ne vient pas de la main de Saül, mais ça vient de ses propres hommes. Et c'est là, enfin, qu'il se réveille. Et au verset 7 de ce chapitre 30, il nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. La fin du verset 6. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et au verset 8, il dit, David consulta l'Éternel. Et c'est lorsque il consulte l'Éternel que les solutions commencent à apparaître. Il récupère toutes les femmes et tous les enfants. Il n'y a pas la perte d'un seul. Et puis peu après, on lui apprend que Saül est mort. Viens, deviens roi. Si David, si tu avais tenu juste un peu plus longtemps, tu n'aurais pas eu ça dans ta biographie. si tu aurais pu confiance encore quelques mois. Après 10 ans, quelques mois, c'est quoi? Mais là, il y a ces 3 chapitres qui dans sa biographie. Pourquoi? Parce qu'il a mal réagi à une crise. Et combien de fois d'entre nous, hein, nous aussi, nous avons des situations peut-être pas aussi graves que celle-là. Mais c'est parce que nous n'avons pas une si grande foi, on n'a pas besoin d'une si grande épreuve pour nous amener à ce point-là. C'est tout. Lui, il fallait que quelqu'un cherche à le tuer pendant 10 ans pour qu'il arrive à ce point-là. Hein? Nous, si quelqu'un le dit d'un dimanche à l'autre, et puis déjà, on est parti. Et ensuite, lorsqu'on se trouve dans une situation dans laquelle on s'est mis, on a aggravé la crise, la petite crise, on en a fait une grande, et après, et on ose en plus accuser Dieu de nous avoir abandonnés. Ça alors. Mais vous savez, à peine s'il se tourne vers Dieu, que Dieu répond. Ça, c'est un Dieu de grâce. Ceux qui me disent que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas un Dieu de grâce, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien lu. Ils ne savent pas lire. Dieu est un Dieu de grâce et il n'a pas changé. Et peu importe si je me trouve ce soir dans une situation où j'ai mal réagi à une grève, à une crise et j'ai aggravé la chose. Écoutez, il suffit de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Finalement, c'est où je regarde? C'est pas ce que je vois. C'est vers qui je regarde qui fait toute la différence. L'individu face à une crise, mais cette crise-là, ça dépend de moi, je peux l'aggraver ou je peux l'écarter. Oui, nous avons vu ce qui aggrave la crise, mais qu'est-ce qui transforme une crise ? Finalement, notre problème réel n'est pas la crise elle-même, mais notre manière de faire face à la crise. Ça doit être notre seule préoccupation. Nous devons comprendre que les crises que notre Père Céleste permet dans notre vie viennent avec des problèmes qui lui sont intégrés, mais aussi avec des opportunités pour voir son intervention. Il faut comprendre. Chaque fois que c'est le Seigneur, hein, que vous en inventez une, vous a transformé quelque chose en crise, ça c'est un autre problème. Hein, je vous laisse méditer sur celui-là. Mais quand c'est Dieu qui permet à la crise de venir dans votre vie, sachez que dans cette crise-là, il y a quelques risques, il y a des possibilités, il y a des, hein, vous savez, il y a des virus qui sont là pour empoisonner la situation. Mais il y a aussi dans toutes les crises que le Seigneur permet des opportunités pour découvrir les capacités de Dieu d'intervenir et de transformer. Les plus grandes évidences de l'œuvre de Dieu, c'est toujours au sein d'une crise. Nous avons déjà vu que si nous réagissons mal, la crise s'aggrave. La crise qui est censée être une épreuve devient une pierre d'achoppement. À cause de la manière dont nous l'accusons. Mais ce que nous voulons voir maintenant, c'est comment transformer une crise qui pouvait nous terrasser en un terrassement qui peut nous affermir. Quelqu'un vous jette des cailloux, vous pouvez les ramasser, les renvoyer. Ou bien vous pouvez les mettre sous les pieds et puis monter. C'est votre choix. Et vous commencez à les accumuler là, et devenir grand, et l'autre, il dit, non, je ne jette plus les cailloux. Même le diable, il ne fait plus ça. Il dit, non, ça ne va pas, c'est comme ça. J'arrête. Mais vous les renvoyez, ben, ça revient, ça continue à venir. Hein. La violence provoque la violence. Celui qui est plus grand, eh bien, renvoie autre chose. Vous savez, peut-être est-ce que parfois vous êtes associé à Job. Vous savez, on parle de Job, on connaît tous bien Job, et donc je ne vais pas vous raconter les détails, mais vous savez, lui, quand il a reçu les mauvaises nouvelles, c'était un rafale. Il disait que le premier n'avait pas fini de parler, que le prochain commençait avec un autre. Et puis c'était des mauvaises nouvelles, c'était pas du n'importe quoi. Et à la fin, il a plus rien, et il a même plus d'enfants. Il avait encore sa femme. D'une heure à l'autre, il s'est trouvé complètement dépossédé de tout ce qui lui appartenait. Et il se trouve au sein d'une crise terrible. Au début, il a essayé de bien prendre la situation. L'Éternel a donné et l'Éternel a enlevé. Béni soit le nom de l'Éternel. Il a bien pris. Et oui, mais la crise n'est pas partie. Puis après, la crise prend une nouvelle forme. Elle l'attaque dans son corps, dans sa santé. Et il essaye encore de bien prendre la chose. Et après, il y a ses amis qui viennent et qui l'accusent. Et il essaye de bien prendre, il essaye de se défendre. Mais à un moment, il n'y a plus de réponse. La crise est telle, elle dure, elle continue. Et Job, qui était un homme intègre, qui avait une grande confiance en Dieu, mais il y a un moment où ça l'use. Il n'y a plus rien. Il porte plainte contre X. Il ne sait plus quoi faire. Mais vous savez ce qui est étonnant dans ce récit ? C'est qu'il a suffi que Dieu lui parle et lui pose des questions à laquelle il ne pouvait pas répondre. Mais Dieu lui pose des questions, il pose des questions, et petit à petit, ses pensées sont en train de se détourner de la crise et se tourner vers Dieu. Et rien n'est changé dans ses circonstances, et tout d'un coup, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est pourquoi je me condamne et je me repens dans la poussière et sur la cendre. Rien n'est changé. Mais Dieu lui a parlé et c'est finalement ce qui a changé, c'est l'orientation de ses pensées. Avant, il voyait les méfaits de la crise. Et là, tout, il commence à voir Dieu. Il voit Dieu. Il n'y a pas de réponse. Il voit Dieu. Et plus il voit Dieu, plus il se sent petit. Et une fois qu'il est bien petit, Dieu lui demande une chose impossible. Il dit maintenant, pardonne tes trois amis. C'est une chose. Une fois qu'on est rétabli, tout va bien, puis ça y est, on a des petits-enfants, puis il y a les moutons, les brebis, tout ça, puis les amis arrivent et disent, bon, ben, écoute, je vous pardonne, hein, c'est pas grave, les choses sont arrangées, tout est bien qui termine bien. Et puis... Non, c'est alors que tout est encore tel quel. Dieu lui dit, maintenant, tu pardonnes tes trois amis qui t'ont accusé, qui t'ont enfoncé pendant que tu étais au fond du puits. Vous croyez que c'est facile de pardonner? Et Job, il nous dit dans ce dernier chapitre du livre de Job, il dit, ben Job, il les a pardonnés. Il a intercédé pour eux. Il dit, Dieu, écoute, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est équivalent, hein? Et vous savez, à peine s'il a dit ça, que tout d'un coup, tout change. Et quand on lit ce dernier chapitre, chapitre 42 de Job, verset 10, il nous dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Et vous comparez, là où il avait 500, il a 1000. Il a le double de tout. Et il avait 4 fils et 3 filles. Alors maintenant, combien il en aura? 7 fils et 3 filles, oui. Sept fils et trois filles, c'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il a perdu. Maintenant, tout revient. Combien est-ce qu'il va avoir s'il a le double de tout? Du verset 13, il eut sept fils et trois filles. Ah bon? Mais je croyais que c'était le double. Bien sûr que c'est le double. Parce que même si les autres sont morts dans l'esprit des hommes, ils sont vivants dans l'esprit de Dieu. On croit à la vie, non? C'est pas la fin. Dieu n'était pas obligé de faire 14. Non. 7 plus 7, ça fait double. Les moutons, c'est autre chose. Les chameaux, c'est autre chose. Mais pour les êtres humains, c'est toujours la vie. Peu importe dans quelle condition ils sont morts. Notre Dieu est extraordinaire. La chose, c'est que les choses ont changé. Il suffisait qu'il change l'orientation de ses pensées. Et tout d'un coup, c'était pas si grave que ça. Ça ne veut pas dire que tous ces gens qui lui avaient pris ses troupeaux sont revenus et disent « Job, pardonne-nous ». Non, non, ils ne sont pas revenus. Dieu l'a relevé. Il n'a pas été relevé parce que tout le monde lui a rendu ce qu'ils avaient pris. C'est Dieu qui l'a relevé. Ce que nous soulignons, c'est l'importance de tourner nos pensées vers Dieu et de les entretenir avec ce qui est vrai. Philippiens 4, 8. Ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Si vous pensez n'importe quoi, la petite crise, vous allez en faire une grande. Vous allez en créer une où il n'y en a pas. Et si vous ne pensez pas correctement et si vous détournez de Dieu, eh bien cette crise s'aggravera. Mais lorsque l'individu se trouve devant une crise et puis tourne ses pensées vers Dieu, tout d'un coup, la crise devient une opportunité. Et combien d'entre nous avons été lire Job pour être encouragés? Vous savez ce qu'on lit pour être encouragé? On va lire Job, on va lire Lamentation de Jérémie. C'est ça qu'on lit quand on est dans la déprime. Eux, ils ont subi ça pour notre encouragement. Non seulement est-ce qu'eux étaient relevés, mais en plus, combien depuis? Quel que soit donc le comportement de l'individu face à la crise, quel doit donc être le comportement de l'individu face à la crise? L'attention ne doit pas être sur la crise, parce qu'elles se suivent. Chaque crise est une crise, puisqu'elle est pour moi une crise. Mais l'essentiel dans une crise, c'est le comportement de l'individu. Jésus, devant la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé au-delà de la croix, pour la joie qui lui était réservée, à endurer. Si ça marche pour lui, pourquoi ce ne serait pas là pour nous? L'individu. Vous savez, l'individu qui ne connaît pas Dieu, comme celui qui ne s'appuie pas sur Dieu, a très peu d'options. Il lui reste qu'une seule chose, c'est se débrouiller. Il compte sur la chance, son acuité intellectuelle, sur les amis, et encore ça c'est pas sûr. Ou bien il essaie d'être mou. On encaisse mieux quand on reste mou. Et c'est tout ce qu'il a. Quand vous ne connaissez pas Dieu, ou quand vous ne vous appuyez pas sur Dieu, c'est pareil. Un croyant qui ne s'appuie pas sur Dieu, il encaisse de la même manière que les incroyants. Regardez David. Mais l'individu qui appartient à Christ, qui a affermi sa foi par la connaissance de Dieu, a des options qui sont nullement affectées par la situation. Parce que lui, il a des options, il a la prière, la sagesse d'en haut pour quiconque la demande. Il a la confiance confirmée en Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus-Christ, prions. Père Céleste, oui, notre attention ne doit pas être sur la crise. Et certains souffrent. Et certains sont encore dans une crise qu'ils ne comprennent pas ce soir. dit, Seigneur, j'ai voulu bien faire, j'avais de bonnes intentions et regarde ce qui m'est arrivé. Père, tout ce que tu dis à ton enfant ce soir, c'est compte sur moi. Place ta confiance en moi. Et quand tu n'as plus de ressources, compte sur moi. Regarde vers moi. Parce que ce n'est pas par ta force, c'est par ma force. Père Céleste, tu connais chaque cœur ce soir. Si nous avons mal vécu certaines crises, eh bien que nous puissions en tirer des leçons pour la prochaine fois. Et que nous puissions comprendre que peut-être il y a une partie, c'est nous nous sommes entêtés de vouloir faire les choses à notre manière et arranger les choses nous-mêmes. Puis on a aggravé la chose. Puis après on t'a accusé toi. Nous l'avons tous fait, Seigneur. Mais dans ta grâce, dès qu'on se tourne vers toi, tu nous relèves, même si les circonstances restent les mêmes. Parce que ce qui importe, c'est pas que la situation change, c'est que nous ayons les regards sur toi. L'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, tu sais quels sont les fardeaux et les préoccupations qui sont sur le cœur de mes frères et sœurs. Et Seigneur, par ton esprit, donne à chacun quelque chose pour ce soir. Nous ne sommes pas démunis, nous avons un Père céleste qui nous aime. Et même si nous ne sommes pas fidèles, il demeure fidèle. Père, merci pour ta parole. Merci pour les exemples. Nous pouvons tirer de bonnes leçons des mauvais exemples de tes serviteurs. Aide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.